Un feu de camp crépite. Ying ronfle. Autour de moi, les centaines de réfugiés se sont également endormis. Les humains en exode ressemblent aux troupeaux de cerfs fuyant la sécheresse. Ils sont maigres, malades. Leur sommeil n'est pas moins lourd que leur angoisse. Je sors de mon sac une paire de ciseaux et taille mes cheveux aussi courts que me le permet la force de mes bras. Je pose mes deux tresses réunies par un ruban près de Ying, franchis une dizaine de corps et m'élance dans la nuit. Dans un bois, je me débarrasse de ma robe et enfile les habits volés à Ying. Je marche à contre-courant des réfugiés en route depuis l'aube. Je ne regrette pas d'avoir suivi Ying dans ses tribulations. Grâce à lui, j'ai connu la force d'un peuple chassé de sa terre. La ténacité de cette marche vers le sud est une protestation muette contre la mort. Ces hommes et ces femmes forment une vague mêlant la haine et l'espoir. Désormais, jusqu'au bout de ma solitude, cette rage m'accompagnera. Comme eux, je désire la vie. Je veux rentrer en Mandchourie et retrouver ma maison, mon damier. Place des mille vents, j'attendrai le joueur inconnu. Je sais qu'il viendra à moi, un après-midi, comme la première fois. À midi, assis sous un arbre au bord de la route, je mange, miette par miette, un pain vieux de 3 jours. Le vrombissement des avions, des explosions lointaines contrastent avec le silence de la foule qui s'avance. Dans le fleuve humain, apparaissent les premiers soldats chinois. Leurs yeux expriment l'épuisement et la dureté des hommes qui ont laissé les leurs à la tuerie. « Pékin est tombé! Dépêchez-vous de fuir! Les Japonais arrivent! Les démons arrivent !» Cris, pleurs s'élèvent. Soudain, j'aperçois Ying qui court en boitant dans le sens inverse des réfugiés. Je me cache derrière un arbre. Il passe à 5 pas de moi en demandant à une femme si elle a vu une jeune fille petite et pâle, les cheveux coupés courts, habillée en garçon. Sa voix est brisée. Maîtresse à la main, il crache par terre et m'appelle en m'injuriant. Il s'éloigne finalement. Tout à coup, un avion qui tourne depuis un certain temps au-dessus de nous lâche une bombe, puis une seconde. Les explosions me renversent à terre. Je perds connaissance. Quand je reviens à moi, la foule court dans toutes les directions telle une procession de fourmis dérangées par un marcheur. Je me lève, mon bras saigne. Dans le ciel, le grondement des moteurs se fait de plus en plus pressant. D'autres avions approchent. Je me précipite dans un pré. Les Japonais bombardent la route, gèrent dans la campagne sans savoir où me cacher. La tête me tourne, mon bras me pèse. Quand me réveillerai-je de ce cauchemar ? Avant la nuit, je distingue à l'horizon un village. Je presse le pas. Il y règne un étrange silence. Dans les maisons, pas un animal vivant, pas un grain de riz, pas un brin de paille dans les fours. Après le massacre, l'armée japonaise a tout raflé. Je n'ai plus la force de poursuivre ma route. Je pénètre dans une chaumière vide. Me souvenant d'une vieille recette dont parlait ma mère, je couvre ma plaie de cendres froides avant de l'entourer d'un morceau d'étoffe déchiré de ma chemise. Je me blottis contre le fourneau éteint et j'éclate en sanglots. Au matin, un fracas terrible me réveille. J'entends hurler des hommes dans une langue incompréhensible. J'ouvre les yeux. Des soldats pointent sur moi leurs armes.